Daniele, y a un cliché dans cette début d'année, c'est la notion des résolutions. Et beaucoup de Français prennent des résolutions, un sur deux. Il y a la moitié qui ont déjà abandonné l'affaire avant de commencer. Ils se sentent même pas embêtés à prendre une résolution. Ils ont dit, je tiendrai pas, donc je l'en fais pas. Et pour l'autre moitié des Français, la résolution qui vient le plus, c'est être en bonne santé et faire du sport. Et il y a un quart des Français qui veulent arrêter une addiction, que ce soit la cigarette, l'alcool ou bien la télé. Oui, j'ai bien dit la télé parce que peut-être certains ont pris la résolution de perdre un peu moins bêtement leur temps et de passer un peu moins de temps devant le petit écran. Mais vous voyez, au-delà de ce cliché, je me dis, est-ce que c'est chrétien ou pas de prendre des bonnes résolutions? Et je pense que c'est profondément chrétien, c'est profondément biblique. Parce que c'est trop facile de dire, je tiens pas, donc j'en prends pas. La Bible dit qu'il faut marcher de progrès en progrès. Et moi-même, c'est vrai, après m'être déçu plusieurs fois, je suis honnête devant vous, après avoir promis à Dieu des fois de passer un certain temps en prière, après avoir promis de lire plus ma Bible, après avoir promis d'être un meilleur papa, après avoir promis de passer plus de temps avec mon épouse en l'amenant parfois au restaurant, en essayant de ne pas oublier en 2013 les fleurs. Enfin bref, toutes ces bonnes résolutions, j'ai tellement été en deçà de mes résolutions que j'ai naturellement envie de dire, je prends pas la peine. Vous savez que Oscar Wilde, il a fait une phrase qui est devenue célèbre, il dit, la meilleure façon de résister à une tentation, c'est d'y céder. Ah, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Et je pense qu'il y a de cela dans ceux qui parmi nous sont très blasés. Et tu es peut-être, toi qui écoutes ce message par Internet ou toi qui es là présent ce matin, tu es peut-être blasé déjà et tu ne veux même pas prendre de résolution. C'est trop facile. La Bible te dit au contraire, marchez de progrès en progrès. Soyez chaque jour de plus en plus à l'image de Christ. Forme en moi, Seigneur, l'image de Jésus. Pour ça, il faut prendre des résolutions, parce que si vous ne faites rien, vous n'allez pas progresser. Alors jusque-là, j'ai à peu près rien dit, parce que vous allez dire, oh là là, encore une prédication sur les résolutions, ça va me culpabiliser. Ça ne m'intéresse pas de vous culpabiliser ce matin. Et ça ne m'intéresse pas de dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu pries plus, il faut que tu loues plus. Il faut que tu sois plus présent avec tes enfants, il faut que tu sois plus présent à l'église. Parce que si je peux mettre une liste, un catalogue comme la redoute ou les trois Suisses de toutes les résolutions que tu dois tenir, ça ne changera rien. Il y a une chose qui m'intéresse ce matin, et c'est la parole de Dieu qui peut nous l'enseigner. C'est comment font ceux qui tiennent leurs résolutions. Parce que les années t'ont peut-être déçu. Mais je peux te dire une chose, c'est qu'il y a un jeune homme à Babylone qui s'appelle Daniel, qui est déporté dans une terre étrangère, qui a perdu tous ses amis, sauf trois, qui se trouve seul, qui a été arraché à sa culture, qui a été coupé de sa famille, qui n'a plus la chance d'aller au temple de l'Éternel. Et cet homme-là va prendre une résolution qu'il va tenir. Alors moi, j'ai envie de lui dire, quel est ton secret, Daniel? Si vous voulez devenir meilleur, il faut tenir des leçons de ce que la Bible dit pour pouvoir tenir vos résolutions. Parce que naturellement, si vous faites comme les autres années, vous aurez les mêmes résultats, vous n'aurez pas le succès dans vos résolutions. Il va falloir faire les choses différemment si vous voulez avoir des résultats différents. Alors regardons ce que la Bible nous enseigne. Quel est le secret? Et ce matin, ça sera le thème de cette méditation, les quatre secrets de ceux qui arrivent à tenir leurs résolutions. Je suis jaloux, mais une saine jalousie envers Daniel, envers Azaria, envers Misaël. Parce que ces garçons-là ont tenu leur résolution. Comment ont-ils fait, Anania, Misaël, Azaria et Daniel, pour tenir leur résolution? Dans le livre de Daniel, au chapitre 1er, on va prendre à partir du verset 3. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, est descendu en Israël, a rasé une grande partie du pays et a déporté les élites du peuple. Et le chapitre 1er du verset 3 nous dit, le roi ordonna à Aspenaz, chef de son personnel, de faire venir les Israélites de lignée royale ou de la famille noble, ou de famille noble. Quelques jeunes gens, sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capables d'apprendre la science, pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Verset 5. Écoutez bien, c'est vraiment le cœur ce matin du verset 5 au verset 9. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont ils buvaient lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda se trouvaient Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belshazzar, Anania Shadrach, Misaël Meshach et Azaria Abednego. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur, et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Amen. Bon, allez, quel est le secret? Parce que la suite du texte va nous dire que Daniel et ses amis ont tenu bon. Comment ont-ils fait? Pourquoi? Il y a une injustice. Pourquoi certains arrivent à tenir et d'autres non? Alors retenez la leçon. Il y a deux choses que je veux voir avec vous. Premièrement, c'est prenez des résolutions intelligentes. Des résolutions qui ont du sens. Une grande partie de vos échecs s'explique parce que vos résolutions sont prises à la va-vite sur un moment d'émotion, un 31 décembre, et ne durent pas plus loin que le 4 janvier. Parce que ce sont des résolutions qui ne sont pas réfléchies. Et le deuxième point que l'on va voir, c'est concrètement quels sont les 4 secrets de Daniel qui vont lui permettre de tenir. Alors regardez, premier point, des résolutions qui ont du sens, des résolutions intelligentes. Vous pouvez prendre des résolutions même si vous vivez dans un moment difficile, que vous êtes en partie isolé, que vous avez perdu les vôtres, que vous avez été déporté sur 800 kilomètres, dans la poussière, le soleil, peut-être les coups de fouet, la souffrance. Vous vous retrouvez arraché à votre terre et très loin de la présence de Dieu. En fait, une résolution, elle se prend en fonction de votre histoire. Arrêtez de plaquer des résolutions qui viennent des autres. Ce que je voudrais vous dire, c'est que les résolutions que Daniel va prendre sont des résolutions pour Daniel. Alors, je voudrais que vous mettiez votre prénom. Les résolutions intelligentes que vous allez les prendre pour vous. Arrêtez de prendre des résolutions des autres. Ce n'est pas parce que Nicolas Sarkozy faisait du jogging que vous allez tenir à faire du jogging. Arrêtez de croire que parce qu'un tel, une telle, une telle s'inscrit en salle de fitness, que vous allez faire pareil. Pour certains, il va être plus dur que d'autres d'arrêter de fumer. Pour certains, passer du temps avec Dieu, passer 10 minutes avec Dieu, ça ne va pas coûter pareil que pour d'autres. D'autres, ici dans cette salle, sont en train de dire: Seigneur, moi, ma résolution, c'est que je voudrais m'investir plus, je voudrais m'investir pour toi dans l'Église. Qu'est-ce que ça va impliquer derrière? Alors, je distingue deux choses. Le sens que vous donnez à votre résolution, c'est ce que j'appelle le général. Et les résolutions concrètes, ça c'est le spécifique. Quel est l'objectif de Daniel? Dites-moi quel est l'objectif de Daniel. Pourquoi il veut prendre des résolutions? Le pourquoi, travaillez le pourquoi. Daniel, pourquoi vas-tu prendre des résolutions? Parce que il veut un, plaire à Dieu, et deux, plaire à lui-même. Plaire à Dieu parce que Daniel dit: je ne veux pas me souiller. En hébreu, c'est dit: il prie à cœur de ne pas se contaminer. C'est fort, hein? Je ne pense pas qu'il y avait forcément des bactéries dans les plats, dans les mets du roi. Je ne crois pas que le vin était dangereux pour Daniel. Il était testé, il y avait des goûteurs, il y avait des échansons. Non, mais le mot contaminé, c'est parce que pour Daniel, par rapport à ce qu'il connaît de la loi de Dieu, il veut plaire à Dieu. Ça, c'est son moteur. Et la deuxième chose, c'est qu'il veut plaire à lui. Parce qu'il voit les jeunes gens du palais de Babylone qui sont ivres. Vous savez, Babylone, à cette époque-là, c'est Ibiza. Hein, je ne sais pas si vous avez compris. Quand vous quittez Jérusalem, Jérusalem, c'est une petite ville à l'époque. Même s'il est de famille royale, Daniel, Jérusalem, c'est un trou. À cette époque-là, là, 600 ans avant Jésus-Christ, même jusqu'à la période romaine, Jérusalem, c'est une petite ville. Les troupes qui étaient amenées en garnison à Jérusalem, c'était presque ceux qu'on expatriait, ceux qu'on punissait d'aller là-bas. Quand vous arrivez à Jérusalem, bon, Jérusalem, il y a un petit centre de vie, mais sinon tout le reste, c'est des paysans. C'est des paysans relativement arriérés. Quand vous êtes du peuple juif en l'an 600 avant Jésus-Christ, vous avez deux temps de retard d'un point de vue technologique. Elle est où l'université de Jérusalem ? Rien à voir avec l'université de Babylone. Les ancêtres de Daniel, ils se battaient avec des épées en bronze, alors que les Philistins, eux, avaient des épées en fer. Ils ont toujours eu une technologie de retard. Comment ça se fait qu'Israël a survécu pendant toutes ces années ? Parce que la main de l'Éternel était avec eux. C'est pour ça que David, il tremblait avant d'aller au combat, mais il disait, mais avec la grâce de l'Éternel, on va gagner. Ils se battaient à 1 contre 10, ils se battaient avec des armes, mais archaïques. Mais Dieu leur donnait la victoire et Dieu disait, tant que vous serez avec moi, je serai derrière vous, je serai devant vous, je serai à côté de vous et la victoire sera pour le peuple. Mais le jour où justement Daniel, la génération de Daniel, va connaître l'exil, pourquoi ? Parce que depuis des années, le peuple s'est appuyé sur leur capacité personnelle, ils ont abandonné l'Éternel. Du coup, l'Éternel les a abandonnés. Et du coup, le combat redevient inégal. Le roi de Babylone arrive en Israël, il fracasse les troupes d'Israël, il n'y a plus la protection de Dieu, donc il emmène en captif tous les jeunes de Jérusalem. Mais dans son malheur, Daniel, il se trouve finalement embarqué dans la ville la plus prestigieuse de l'époque, les jardins suspendus de Babylone. Vous en avez entendu parler ? Ça fait partie des plus grandes merveilles du monde. Donc quand il arrive à Babylone, ça doit être très tentant. Moi, j'ai quitté la Bretagne. Je suis né à Carré-Plouguer au milieu des vaches. Il n'y a pas d'université à Carré. Là où j'habitais, c'était Plounévezel au lieu dit Quatilouarn, le bois du renard. Ça vous dit bien ce qu'il y avait là ? Pas grand-chose. Quand je suis arrivé à 21 ans à Paris, il parlait 4 langues dans le métro, il y avait un tamoul derrière. Il y a quelqu'un qui te chasse devant, un Parisien et puis un Marseillais, parce que pour moi, c'est une autre langue. Vous comprenez ? Il y a un moment où, quand tu arrives dans la grande ville, et puis, attention, j'ai quitté l'université de Bretagne occidentale et puis je suis arrivé à la Sorbonne. Rien qu'avec le nom, j'avais l'impression d'être plus intelligent. Daniel, c'est pareil. Lorsqu'il arrive à Babylone, naturellement, ça doit être tentant de se dire « Waouh !» Ici, c'est extraordinaire. C'est tous les jeunes gars de l'Empire qui sont réservés pour la culture, l'intelligence. Il est le HEC, le Polytechnique de l'époque. Et puis en plus, à mon avis, ça devait être les mêmes soirées étudiantes que maintenant. Et les mets du roi et le vin devaient bien couler à flot. Et quand Daniel arrive dans ce lieu, il se dit « Ce lieu est certainement magique. C'est la meilleure université qui existe à l'époque, l'université des Chaldéens. » C'est la meilleure université pour la science. C'est la meilleure école pour la littérature. C'est la meilleure école pour les arts. Mais il y a dans mon cœur le souvenir d'un temple qui n'existe qu'à Jérusalem et dans lequel Dieu se tient. Et c'est pour ça que Daniel résolut dans son cœur de plaire à Dieu. Parce qu'une chose est d'avoir des super diplômes. Une chose est d'avoir une réussite sociale. Si tu perds ton Dieu, tu rates ton année, tu perds ta vie. Et Daniel résolut dans son cœur que le plus important, à Babylone ou ailleurs, c'était de rester fidèle à son Dieu. Et lui-même voulait se plaire à lui-même. Parce qu'il y a un moment où, et soyez honnête ce matin, à force de prendre des résolutions que vous ne tenez pas, vous vous blessez vous-même. Parce que votre image de vous-même se dégrade. Vous dites « je suis nul ». J'avais promis de rester fidèle à Dieu et de pouvoir tenir ça, 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 je n'ai pas tenu. J'avais promis de me lever chaque matin, lire ma Bible, je n'ai pas tenu, je suis nul. Alors maintenant, donnez du sens à vos résolutions. Une résolution, c'est vers où vous voulez aller. Donnez du cap, donnez du sens, parce que sinon, vous n'avez pas le moteur. Si vous n'avez qu'un catalogue de lois, vous allez vous effondrer. Vous entendez là ? Arrêtez de faire des listes, s'il n'y a pas du sens derrière vos listes. Arrêtez de faire des listes qui n'ont pas de sens. Est-ce que vous êtes prêts à voir, je voudrais aller le plus profond possible ce matin parce que je ne veux pas faire un cours de psychologie, je veux que ce soit la parole de Dieu qui puisse parler. Et le choix de Daniel, la résolution, plaire à Dieu, ne pas souiller. Concrètement, il fait quoi? Parce que quand vous avez dit ça, la résolution générale, plaire à Dieu, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire quoi? Alors là, ça devient très intéressant. Ça va être un peu compliqué, je suis désolé. Hein. Accrochez-vous. J'ai besoin de toute votre attention. Il y a deux choses que Daniel va refuser. Il va refuser les plats du roi et il va refuser le vin du roi. Pourquoi va-t-il refuser les plats du roi? La Bible dit, Daniel dit, je résolus de ne pas me souiller en ne mangeant pas les plats du roi. Parce qu'il a lu dans le texte de la loi de Dieu, dans le Lévitique, un texte qui est très clair. Je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte, votre Dieu, soyez saints, car je suis saint. Et au verset 47, il est dit, Lévitique 11, 47, afin que l'on sépare ce qui est pur de ce qui est impur, qu'on distingue les animaux qui peuvent être mangés et ceux que l'on ne doit pas manger. Et je pense que Daniel se dit, dans les plats qu'on va me sortir des cuisines de Babylone, il va y avoir de tout et du n'importe quoi là-dedans. Or, ma religion me l'interdit. Ma loi me l'interdit. Et Daniel résolut de dire, ça va me poser des problèmes. Donc je vais demander à l'intendant de ne pas manger cela. Je vais plus loin. Est-ce qu'il doit prendre cette résolution ou pas ? Réfléchissez là, parce que moi ce qui m'intéresse c'est que vous compreniez en profondeur le texte, parce que c'est trop facile de dire « Ah ben d'accord, pasteur, alors ça veut dire qu'il faut se mettre des lois. » Non, non, c'est Daniel a choisi de ne pas manger cela. Mais en même temps, dans le texte, qui est la Bible, je vois des autres cas. Je vois Dieu qui dit « Tu respecteras le jour du Shabbat. » D'accord ? Et quand Jésus, avec ses disciples qui ont faim, passe dans un champ où il y a des épis de blé, Jésus leur dit, vous pouvez glaner alors que c'est interdit, le jour du Shabbat. Je vois qu'il arrive dans le temple où un homme a une main qui est sèche et Jésus lui dit, tends la main. Et les pharisiens lui disent, c'est le Shabbat, pas de ça. Et Jésus dit, le Fils de l'homme est plus grand que le Shabbat. Oh là, ça commence à me troubler. Je vois que David, même le prophète David, qui était le roi d'Israël, il y a un moment où il a eu faim avec les prêtres de Nob, il a mangé du pain consacré au temple. Vous vous rappelez de ça aussi? Et il a fait une exception à ce qui était dû. Donc vous voyez, il y a la règle, et puis il y a le sens de la règle. Et Jésus dit aux pharisiens, vous respectez tout strictement la règle, mais vous ne respectez pas le sens. Vous donnez la dîme de la menthe et du cumin, mais vous ne comprenez pas le sens qui est derrière. Alors, je vais plus loin ce matin par rapport à Daniel. Est-ce que Daniel devait prendre cette résolution? Non, il n'était pas obligé. Parce que je crois que Dieu ne voulait pas le faire mourir de faim. Écoutez bien ça. Dieu n'allait pas contraindre Daniel à mourir de faim pour un contrôle de ce qu'il y allait avoir dans le plat. Je crois que c'est Daniel qui, pour plaire à Dieu, je répète, Daniel, pour plaire à Dieu, s'est donné cette limite-là. Est-ce que si jamais tu n'as pas de culte personnel, Dieu va te châtier? Non. Alors comprends une chose. Dieu te laisse libre de choisir des résolutions que tu prends pour lui plaire. En fait, je vais même plus loin. La grande différence entre celui qui a une relation personnelle avec Dieu et un religieux. Le religieux a une relation enfantine à la règle. Si vous êtes religieux et que vous ne respectez pas la règle, c'est comme des enfants à qui on tape sur les doigts. Tu n'as pas respecté la Torah. Paf ! Tu es châtié par Dieu. Tu n'as pas respecté les cinq piliers de l'islam. Tu vas voir ce que tu vas payer quand tu arriveras au ciel. Et chez les chrétiens aussi, on fait ça. Il y a toujours quelqu'un qui va être plus spirituel. Mais moi, je respecte ça, ça, ça. Ah, moi, je ne mange pas de ça, madame. Ah, moi, j'ai le foulard. Ah, moi, j'ai... Et donc, vous pouvez mettre des règles. Est-ce que ces règles-là sont mauvaises? Non, elles sont bonnes. Est-ce que ces règles sont obligatoires? Non, elles ne sont pas obligatoires pour autant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Utilisez, même, il va plus loin, il dit « Tel respecte, tel ne respecte, tel respecte le Shabbat, tel ne respecte pas, mais ne vous jugez pas vous les uns les autres. » Et donc, il y a un choix que l'apôtre Paul dit. Moi, j'ai choisi de demander à Timothée d'être circoncis, mais je ne l'impose à personne. Timothée a dit oui, etc. C'était son choix. Donc, du coup, par bonté pour les autres, etc., il a accepté de le faire. Est-ce que pour autant, il demande à ce que tout le monde soit circoncis? Non! Et c'est tout un débat dans l'Église primitive. C'est où est-ce qu'on met la résolution de la loi? Et l'apôtre Paul dit, vous êtes libres, car Christ vous a affranchis, c'est pour la liberté. Vous n'êtes plus des religieux qui devaient avoir un catalogue de listes à appliquer, mais si vous vous appliquez une règle, suivez-la, volontairement, avec du sens. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, devant les Juifs, je ne mange pas de la viande sacrifiée aux idoles. Par contre, si je suis avec les païens, moi ça ne me dérange pas d'en manger, que dit l'apôtre Paul. Lisez ça dans 1 Corinthiens 10. Ça vous demande d'avoir un cerveau, mes amis. La Bible est d'accord à ce que vous ayez un cerveau. Et Daniel a choisi librement de se mettre cette barrière-là et de dire « je ne mangerai pas de ça ». Est-ce que Dieu l'aurait châtié autrement? Je ne pense pas. Mais est-ce que Dieu était content que c'était comme un cadeau que Daniel offrait à Dieu? Et Dieu a dit « waouh ». Et le verset, je crois que c'est le verset 10 qui nous dit « et Dieu bénit Daniel en lui faisant trouver faveur ». Vous comprenez l'idée? Alors je vais plus loin. L'histoire du vin, là. Encore sur la viande sacrifiée aux idoles, sur les mets du roi, les plats du roi, je comprends qu'il ait dit non. Mais alors pour le vin, je ne comprends pas. Je suis allé aux États-Unis. Certains sont allés aux États-Unis? Oui. Alors je suis allé en plus dans une école biblique dans le Texas. Alors c'est formidable, mais quand je suis arrivé, la première chose qu'ils m'ont fait signer à l'école biblique, c'est « engage-toi à ne jamais boire un verre d'alcool quand tu es à la faculté biblique. » C'est quoi ce délire? Mon grand-père avait un problème avec l'alcool. Et puisqu'il avait un problème avec l'alcool, ma maman et toute la famille, on avait décidé qu'il n'y aurait pas de vin à la maison pour ne pas tenter papy. Vous comprenez l'idée? Donc pour lui, on a fait ce que l'apôtre Paul dit. Soyez, mettez la limite en respect pour les autres. Pour lui, on ne l'a pas fait. Mais une fois que papy est parti dans la gloire, on n'est pas devenu alcoolique. Mais on avait le droit de boire un petit verre de temps en temps. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais posé problème pour nous. Pour moi, ça n'a jamais posé problème de boire un verre d'alcool. Alors quand je suis allé voir les ricains là, qui m'ont fait signer pour un... Je dis, franchement, c'est du n'importe quoi, mais bon. Puisque je ne vais pas être non plus bête que bête et faire un combat là-dessus. Je veux dire, il y a des choses plus intelligentes pour utiliser mon énergie. Donc j'ai dit OK. Mais je ne vois pas pourquoi Daniel, lui, il dit non. Hein. Parce que qu'il ne soit pas alcoolique, d'accord. Mais la Bible ne dit pas qu'on n'a pas le droit de boire un peu de vin. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui le dit à Timothée. Il dit, tu peux boire un peu si c'est pour des raisons médicales, etc. Bon, Daniel, je ne comprends pas alors. Il faut ou il ne faut pas? Eh bien, en fait, quand tu prends une résolution, et je termine sur ce point, il y a deux choses que tu dois prendre en compte. Ton environnement, et tes limites personnelles, ton caractère personnel. Où est-ce qu'est Daniel? Il est entouré, il est dans la faculté de Babylone, entouré d'alcool, de sexe, de femmes, qui sont là au banquet. Et vous voyez pour Daniel, l'alcool pourrait être un vrai danger. Parce que toutes ses valeurs et toutes ses règles et tout ce qu'il essaye de faire, si jamais il va trop loin avec l'alcool, il peut se retrouver à coucher avec une personne, il peut se retrouver à dire des choses contre Dieu, il peut se retrouver à faire ceci, faire cela, qu'il ne saura même pas le lendemain qu'il avait fait. Et donc Daniel, vu la pression de l'entourage qui est autour de lui, tous ces jeunes-là qui sont dans cette école, il se dit « je ne touche pas moi ». parce que le deuxième aspect, l'environnement, mais il y a aussi ses limites personnelles. Et il se dit, franchement, me connaissant, j'y vais pas. Concrètement, écoutez bien ce matin. Je voudrais parler à ton cœur et que tu comprennes ce que ça veut dire dans ta vie. Si tu es un jeune gars célibataire, il y a des limites que tu dois te fixer qui sont plus strictes que si tu es une mamie de 70 ans par rapport à la télé. Quand tu es sur Internet, quand tu es sur la télé, dans ce que tu regardes, tu as plus de risques que ça t'amène après vers des frustrations sexuelles, vers le fait d'être complètement addict à la porno, après d'avoir des tentations par rapport à des personnes que tu fréquentes dans ton école, etc. Et peut-être d'aller même trop loin, peut-être d'avoir des pensées par rapport à quelqu'un qui est déjà marié, etc. Donc à ce titre-là, quand tu es dans cette situation, tu dois te mettre des limites qui ne sont pas les mêmes. Je pense que la mamie de 70 ans a moins de tentations quand elle regarde la télé. Même une série, la même série ne va pas lui faire le même effet. Par contre, chacun doit tenir compte de son environnement et de ses propres limites pour fixer ses règles. Je suis désolé, moi, je n'ai pas de problème avec la nourriture. Je pense que je ne deviendrai jamais obèse. C'est génétique, c'est une chance, c'est une grâce. Du coup, je pouvais aller aux USA et manger 5 fois au McDonald's consécutivement et pas d'effet. Et qui disent, oh, il a trop de chance, ce pasteur. Ça ne me faisait rien. Je suis trop nerveux, j'évacue tout. Les burgers, ils ne rentrent pas. C'est une grâce. Bon. Maintenant, c'est peut-être pas vrai pour toi, madame. Du coup, tu vas devoir mettre des limites que moi, je n'ai pas à mettre. Par contre, moi, j'ai un problème parfois pour me poser devant Dieu et pour rester quelque temps devant Dieu, alors que toi, tu es très bien, tu es tranquille devant Dieu, tu mets ta louange et tu peux rester des heures. Moi, au bout d'une demi-heure, je viens de faire quelque chose. Vous voyez, on est tous des limites différentes. Donc, je vais devoir me contraindre et me mettre des résolutions en disant, voilà, Seigneur, si je prends la résolution de passer du temps avec toi, moi, le portable, c'est un danger. Je condamne le portable quand je vais devant Dieu. Vous comprenez l'idée ? Vos résolutions sont personnelles. Toutes les mamans, tous les papas dans cette salle. Vous n'avez pas les mêmes tentations, vous n'avez pas les mêmes résolutions à prendre. Je voudrais terminer sur les limites personnelles. Vous voyez, il s'est mis des limites parce qu'il est plus facile, je pense par rapport au vin, je termine là-dessus, il est plus facile de bloquer au début, de bloquer à la source, ce qui pourrait être un péché, parce que après, arrêter un torrent de boue, c'est impossible. Si tu as un problème avec la pornographie, vaut mieux que tu bloques à la source, parce qu'une fois de tes dents, éteindre la télé, ça sera très dur. Donc, l'anticipation et le fait de couper au tout début, c'est pour ça que Daniel s'est dit, bon, moi, j'y touche pas. Je pourrais y toucher, c'est pas interdit par Dieu, mais vu que je vais avoir du mal derrière, j'éteins. Moi, j'ai fait un moment 6 mois sans télé parce que je me suis dit j'arrivais mal à contrôler. Est-ce que la télé est mal en soi ? Non, la télé, elle peut être formidable. Il y a des choses très intéressantes à la télé. Maintenant, je sais que si tu passes 3 heures devant la télé et que tu es juste avachi et que tu ne comprends même plus et que tu regardes pour regarder, il y a un moment où tu peux tomber sur quelque chose de pas terrible. Ouais. Donc moi, je me suis privé un temps. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la télé ? Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour moi. Vous avez compris l'idée ? Vous mettez les règles en fonction de vos faiblesses et de votre environnement. Allez, je vous donne les 4 secrets. Les 4 secrets de ceux qui tiennent leur résolution. Je vais essayer d'être court, le temps passe trop vite. Donc verset 8, Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Mais celui-ci lui dit, « Je crains mon seigneur le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, il m'en rendrait responsable et je le paierais de ma vie à cause de vous. » Aïe. Alors Daniel parla à l'intendant auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi qu'Anania, Misaël, Azaria. Il lui proposa. « Fais donc un essai avec nous pendant 10 jours. Qu'on nous serve seulement des légumes, en hébreu c'est du grain, à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. » L'intendant accepta leur proposition et fit un essai de 10 jours. Au bout des 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient une meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alléluia! Ils ont tenu. Alors pourquoi Daniel va réussir à tenir? Ta part à toi, les 4 secrets qu'il faut mettre en place. Je voudrais qu'au moins vous reteniez le premier. Le premier est le moins évident et le plus important. Je vous donne le 2, 3 et 4. Le deuxième, ça sera de mettre des objectifs réalisables, 10 jours. Le troisième, tu auras besoin d'encouragement, il faut que ça soit évaluable. Et le quatrième, vaut mieux que tu aies des amis avec toi pour t'aider à les tenir. Mais alors le premier, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au moment même où Daniel a pris la résolution de ne pas se rendre impur? Notez bien, regardez le texte, regardez. Parce que si je vous dis ça de façon comme du tout cuit, vous n'allez pas comprendre et ça va passer, vous allez oublier. Verset 10. Méditez la Bible, regardez. Verset 10. À propos de l'intendant, donc le chef du personnel. Celui-ci lui dit, « Je crains mon seigneur le roi qui a prescrit que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé et que les autres jeunes gens de votre âge, il m'en rendrait responsable et je le paierais de ma vie à cause de vous. » Vous savez pourquoi vous ne tenez pas vos bonnes résolutions? À cause de l'imprévu. À cause de l'imprévu. Et le secret, c'est d'anticiper dès le départ ce qui va se passer pour vous empêcher de tenir votre résolution. Je vous donne un exemple. Ça m'est arrivé parfois de dire, je prends la résolution de me mettre au jogging 2 fois par semaine. Tout le monde est d'accord? Est-ce que vous approuvez cette résolution? C'est pour une bonne raison. Le sens qui est derrière, c'est d'avoir un corps sain, être en meilleure santé pour rester plus longtemps sur la terre. C'est justifiable. Le problème, c'est que quand vous prenez cette résolution le 1er janvier, le mardi, il pleut. Pas de chance. Le mercredi, il pleut. Le jeudi, il pleut. Le vendredi, le samedi, vu qu'il pleut et le dimanche, il pleut. On se retrouve le lundi suivant en disant, mince, j'ai pas fait de jogging. Pas de chance, il a plu. Quand vous êtes une maman, vous dites, Seigneur, j'ai décidé tous les soirs, maintenant je vais vraiment consacrer un culte pour toi. Le premier soir, vous apprêtez à ouvrir votre Bible, vous entendez toc toc, maman, j'ai mal aux pieds. Attends, je vais te faire, parce que comme vous aviez pris la résolution d'être une bonne maman aussi, du coup, comme c'est votre petit bébé, vous arrivez un petit pansement, de petits bisous, et puis vous retournez à votre Bible. Et là, vous entendez, dring, le portable qui vibre. Alors, jusque-là, ça ne pose pas de problème, mais sauf que c'est la cousine en Martinique et vous savez qu'elle vit vraiment un moment difficile. Dites, Seigneur, donne-moi l'inspiration pour lui parler et la consoler, etc. Hop, allô? Et votre temps avec Dieu, il a passé. C'est l'heure de faire dodo, il n'y a pas eu de temps avec Dieu. Vous comprenez l'idée? C'est l'imprévu qui vous tue. Arrêtez de croire que tout dépend de vous. Moi, je me suis levé en disant, voilà, cette année, ça sera différent et je tiendrai. Mais parce que tu rentres dans une, tu crois que c'est une armée et que tu peux gagner le combat, je dis voilà, contre ça et ça, je vais lutter, je vais tenir. Oui, mais le problème, c'est que Daniel, il prend la résolution. Non, je ne mangerai rien d'impur, etc. Je suis sûr qu'il a dû s'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un qui lui dit, tu vas manger, oui. Alors là, tu es prêt. Mais non, je ne mangerai pas. Tu vas manger, oui. Non, je ne mangerai pas. Ça, vous êtes prêt, vous êtes un homme, vous êtes prêt au combat. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est le chef du garde, déjà, il est sympa. Mais vraiment sympa. Et vient voir Daniel lui disant, Écoute, c'est bien gentil ta résolution là. Mais moi, je vais mourir avec ton truc là. Parce que concrètement, celui qui est jugé, c'est pas toi, c'est moi. Donc moi, je veux bien que tu prennes une résolution sur tes histoires de grains et toutes tes bêtises là pour ton Dieu. Mais concrètement, le roi, moi, c'est ma tête qui paye derrière. Hein. Oh mince, j'avais pas prévu ça. Bah, je vais pas pouvoir la tenir alors. Attendez, votre danger, c'est pas forcément vous-même, c'est la personne, ce que j'appelle la tentation d'une personne très compréhensive qui vient gentiment vous faire exploser votre résolution. Par exemple, vous êtes engagé sentimentalement et vous dites, voilà, je vais me rester pur avant le mariage, je vais faire, voilà, on va essayer de tenir, hein, on va essayer de tenir. Et puis, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui dit, viens coucher avec moi, tu dis, mais t'es fou, quoi. Oui, mais si c'est quelqu'un qui dit, t'as un cœur extraordinaire. On contacte, mais je t'assure, depuis que je te parle, mais c'est quelque chose, ça vibre à l'intérieur. Et puis il va te mettre plein de petits mots. T'attendais une attaque frontale. T'as pas du tout une attaque frontale. T'as un truc vicieux qui arrive dans le coin, là. Et t'as pas prévu ça. T'as prévu de dire non à un gros lourd. Mais t'as pas prévu de dire non à quelqu'un qui t'aime et qui vient en face en disant, Daniel, c'est moi qui vais mourir à cause de ton choix. Mais j'ai pas pris ta résolution et c'est moi qui paye. Ah non, je peux pas te faire ça alors. Ah bah écoute, bah tant pis pour la résolution. Vous comprenez l'idée? Vous devez déjà savoir ce que vous allez faire quand les enfants vont crier à la porte. Vous devez déjà savoir ce que vous allez faire avec le portable. Lorsque vous décidez de venir à l'église et de dire « Seigneur, je vais être présent au réunion de semaine », c'est une excellente résolution. Vous devez déjà anticiper le jour où il fera froid, le jour où il y a du verglas, le jour où ça va mal se passer, vous allez être crevé parce qu'au boulot, et en plus, on vous aura mal parlé et vous avez tout envie de faire sauf d'aller à la réunion du jeudi soir. Mais tant que vous n'avez pas prévu ça, au moindre événement climatique, au moindre événement psychologique, au moindre événement dans votre morale, vous allez vous trouver des excuses et une personne compréhensive pour dire « Écoute, ce soir, tant pis. » Je parle à quelqu'un ce matin. Ça vous arrive aussi de faire ça? Donc prévoyez qu'est-ce qui se passe lorsqu'il va y avoir des événements qui vont essayer de vous détourner de votre objectif. Et ça, ça vous demande de la réflexion. Alors après, je termine avec ça, vous avez compris. Le deuxième point, c'est des objectifs réalisables. Alors j'ai décidé que je ne mangerai rien d'impur pendant 1000 jours. Parce qu'il est parti pour 3 ans, Daniel. Hein. Donc faites 365 fois 3 égale 1000 jours. J'ai décidé que je ne mangerai rien pendant 1000 jours. Bah, t'es mort, Daniel. Si l'autre il dit non en face, t'es mort. Donc ça ne sert à rien de prendre une résolution à 1000 jours. Daniel, il est malin. Et il te donne un secret pour tenir tes résolutions. Il dit au chef du personnel, il dit, faites le test pendant 10 jours. Et commence pas à me dire, je vais m'engager à fond dans un service pendant les 5 prochaines années. Attends. Fais déjà l'année, ou fais déjà 2 mois, et après on voit. Commence pas à dire, Seigneur, cette année, ça sera 1 heure de louange par jour. Fais ça déjà la première semaine de janvier. On verra la deuxième semaine après. Mets des résolutions réalisables. Commence pas à dire, voilà, je vais acheter des fleurs tout le temps à ma femme. Je l'amènerai cette année, je l'amènerai vraiment au restaurant. On va passer des temps de qualité ensemble. La fais pas rêver si tu n'assures pas derrière parce que ça va faire un effet pire. Donc commence avec des objectifs raisonnables. Et une fois que tu vas passer la barre, si tu es un homme comme moi, tu vas te sentir valorisé. Parce que le troisième point, c'est demande aux autres d'évaluer tes progrès. Ah, ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. C'est un régal. Imaginez-vous le chef du personnel qui vient voir la tête de Daniel, qui dit, mais dis donc, t'es bien, là. Dis donc, t'es mieux que l'autre à côté. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, ça te redonne du boost pour les 10 prochains jours. Hein. Vous imaginez quand, au bout de 10 jours, il y a quelqu'un qui vient vous voir en disant, dis donc, depuis que t'as arrêté de fumer, là, t'as une haleine merveilleuse. C'est vrai, non? Pourquoi vous rigolez? T'as l'air épanoui, etc. Ben, ça te redonne envie de donner 10 jours de plus, non? Mais si vous prenez des résolutions qui ne sont pas identifiables, comment vous allez tenir sur le long terme? Vous savez, votre zèle au début, il part très haut, hein, mais il finit très bas. Hein. Mais tous les êtres humains sur la Terre, on commence avec des super résolutions, mais déjà le 10 janvier, il n'y a plus grand-chose. Donc soyons logiques, prenons des résolutions pour le mois de janvier, ça suffit. Et après, on fait le résultat. C'est ce troisième secret. J'analyse, je demande à quelqu'un de me dire qu'est-ce que tu en penses, que j'ai tenu ou pas. Et pour terminer, trouvez des partenaires, des personnes chrétiennes avec vous qui vous aident. Parce qu'il y a un moment, Daniel, où tu seras un petit peu en déprime. Tu penseras au tien, tu ne les vois pas, tu vas déprimer en passant à ta famille, à ton père, à ta mère, à peut-être ton petit frère qui est resté là-bas en Israël, et ça va te faire déprimer. Et tu vas être en tentation de prendre un tout petit verre d'alcool, de prendre un tout petit peu du repas qui ça sort de l'habitude. Il y en a marre un peu des légumes, du bouillon et puis des grains de blé, quoi. Ce jour-là, tu as besoin d'avoir Anania, Azaria et Misaël à côté qui te disent « Hey Daniel, oh, tiens bon mon gars, on y est ! Tu tiens bon et on va gagner !» Et là, ça aide. Et je voudrais rendre hommage parce que j'ai... Elle n'est pas là, c'est bon. Non, ma femme n'est pas là. Je vais lui rendre hommage pour quelque chose. Vous arrivez à prier, vous ? Je veux dire, vous arrivez à prier une heure ? Bah, je trouve franchement, tout seul, c'est quasi impossible. Il y en a quelques-uns qui arrivent, vous êtes des champions, j'ai du respect pour vous. Mais moi, ma femme, elle a trouvé un moyen. Elle s'est dit, elle a pris 3 ou 4 copines, elles ont commencé à faire des temps spirituels ensemble. Et à 4, vous voyez, eh ben, elles arrivaient. Et pendant des années, elles ont tenu ça. Alors que moi, à chaque fois que j'ai décidé tout seul, je n'ai pas tenu plus de 15 jours. Pourquoi elle a réussi pendant des années ? Parce qu'à plusieurs, tu tiens. Alors quand tu prends une résolution, fais bien le plan au départ. Et regarde si tu n'as pas des personnes dans ton entourage, dans ta famille, au groupe de jeunes, au groupe authentique, quelqu'un qui peut te dire « Ok, on la prend ensemble. » Parce que la Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ben, c'est bien ça. Vous voyez, plus on est, plus on tient. Parce que le jour où il y a un qui a envie de craquer, il y a 2 autres qui t'aident. Ouh, c'est bon si vous vivez ça. Hein, c'est pour ça que quand vous décidez une résolution pour votre famille, ne la prenez pas tout seul, cette résolution. Si c'est pour une résolution qui va avoir un impact sur votre famille, vous la faites tous ensemble. Vous réunissez tous les membres de la famille, vous dites, voilà, maintenant, est-ce que vous êtes d'accord ? Tout le monde participe. Est-ce que vous êtes d'accord de prendre cette résolution-là ? Vous impliquez vos enfants. Voilà, quand maman fera son petit culte avec Dieu, eh ben, il ne faudra pas la déranger. Mais pourquoi ? Parce qu'elle est avec Dieu. Vous mettez des règles ensemble. Allez, je suis trop long, mais je voudrais juste vous dire quelque chose. Pour tous ceux qui viennent à l'église, votre culte, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas à 13h. Il ne s'arrête pas au bout d'une heure et demie. Votre culte, il est avant et après. Parce que dans cette église, on a fait un choix bizarre, mais qui vous enlève une excuse. On a fait le choix de mettre des canapés en bas. On a fait le choix de servir du café. On a fait le choix qu'il y ait de quoi rester. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas d'amis chrétiens, bah vous ne tiendrez pas vos résolutions. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel à rester dans un canapé à la fin du culte ? Rien, sauf si jamais tu prends la peine d'aller voir ton voisin et dis comment tu vas toi ? Ah mais dis donc, j'ai le même objectif que toi. On peut le tenir ensemble, non ? Et là, on commence à créer une église soudée dans laquelle Dieu voit de l'unité. Une église où tout le monde essaye d'aller plus haut ensemble en même temps. Et ça se passe qu'en général, dans ces cas-là, Dieu envoie un réveil. Le réveil, c'est jamais une personne toute seule qui devient illuminée. Hein. Le réveil, c'est une église ensemble qui se met des résolutions pour prier ensemble, des résolutions pour lire la Bible ensemble, des résolutions pour partager leur fardeau quand quelqu'un va mal, des résolutions pour se réjouir avec ceux qui se réjouissent quand il y a un bébé qui naît. Ça commence à être quelque chose qui ressemble à l'épouse de Christ que Dieu nous dit qu'on doit aimer. On va fermer les yeux ensemble. Pour tenir vos résolutions, réfléchissez. Pas de mimétisme, vos résolutions sont personnelles. Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, je voudrais vous dire, donnez du sens à votre résolution. Est-ce qu'elle est vraiment indispensable, cette résolution ? Est-ce que ça correspond à un projet de vie, une personne que vous voulez devenir ? Si oui, décliner cette résolution en application concrète. Il y a ça, ça, ça et ça que je mets en place. Faites comme Daniel. Alors que tu es sur ta chaise en train de dire « Seigneur, aide-moi à tenir mes résolutions. » Dieu te dit d'abord, réfléchis et pense à toutes les fois où il va y avoir des événements qui vont essayer de te décourager, des événements imprévus qui ne dépendent pas de toi. Comment vas-tu réagir ? Deuxièmement, est-ce que ton objectif est réalisable ou pas ? Est-ce que la barre, elle est logique ? 10 jours, quelques jours, pas trop dur. Troisièmement, fais un bilan régulier pour évaluer tes progrès parce que tu as besoin d'encouragement. Et quatrièmement, entoure-toi des personnes qui t'aideront le jour où tu auras des difficultés. Il y a un moment clé, un tournant dans la vie de Jésus et de ses disciples. C'est un moment d'épreuve. Et Pierre, il pense que tout seul, il peut tenir.